marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
C'était un ami d'Alain, Alphonse Dupron, qui parlait, Alain, en son journal.
J'avais deux auditoires, l'un et l'autre de très haute qualité. Les garçons de Henri IV et les filles du collège Sévigné. La même doctrine des deux côtés et la même méthode austère qui exclut bien vite les interrogations, les discussions, les exposés faits par les élèves, tous moyens de paresse. L'expérience m'a fait voir que les leçons péniblement suivies et retrouvées à grand travail sont ce qui délivre le mieux l'esprit de chacun. Dans les classes de ce niveau-là, on n'a point coutume de pousser les élèves à eux de se sauver s'ils peuvent.
Alors ça, ce n'était pas la voix du philosophe Alain. On l'entendra pendant 30 secondes, c'est promis. Tout à l'heure, on n'aura pas mieux à vous proposer. Pour son dernier cours en 1933, le ministre de l'Instruction publique lui-même s'était déplacé, un autre aussi. Il s'ajoutait aux 70 élèves de la classe d'Henri IV et à nombre d'admirateurs. Alain incarne pour longtemps encore le professeur magistral de la République. Mais s'il a laissé un sillage profond, c'est qu'il n'avait rien du pontife en chair. C'était plutôt un artiste de la figure libre. Il avait lu les livres au plus près, il marchait de long en large dans la salle, ouvrant des chemins. Il nettoyait la buée que la bêtise dépose sur les fenêtres et les ouvrait vers le ciel, qui est lui aussi un excellence d'instituteur. Cette méthode pouvait le laisser lui-même dans l'obscurité. Heureux le professeur pour qui les élèves peuvent alors quelque chose. Ce ne sont plus des élèves, mais des disciples qui pratiquent le doute en sa compagnie. Ils peuvent penser dans des directions très différentes, mais ils constituent comme un cercle d'amitié, et l'amitié est constitutive d'un pays. Alain n'a jamais été élu à la Sorbonne et encore moins au Collège de France. En revanche, il a été apprécié par le public des universités populaires, par les lecteurs de la Dépêche de Rouen, à qui il livrait ses libres propos, ou aussi bien par les chambrées militaires. Il s'était en effet engagé volontairement à 46 ans en 1914 et il avait été nommé canonnier de deuxième classe. Par toutes ses fibres, il tenait au peuple. Le peuple, disait-il, n'est pas abruti, il est abandonné. Rien d'ailleurs ne l'attirait davantage que ce qui paraissait alors fermé aux humbles, la peinture, la musique classique. Pourtant, de même que la philosophie peut s'enseigner à qui n'a pas lu Platon, le vivant est accessible à qui se comporte en poète.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Emmanuel Blondel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez publié déjà nombre de textes d'Alain et de son maître, Jules Lagneau d'abord. Et maintenant, aux Équateurs, vous publiez le journal qu'il tient de 1937 à 1950. Quand il commence ce journal, il est malade, on aura l'occasion de le dire et de le redire, 4 ans après sa retraite, il écrit « Mais tenir mon journal, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est raisonnable d'éditer cet objet à bien des égards déconcertant, énorme, fait de morceaux qui peuvent se détacher pour être publiés, par exemple, dans des revues ?» Enfin, c'est un étrange objet.
Oui, c'est un très étrange objet. Je vous remercie de cette invitation qui me permet de présenter un peu un visage d'Alain, effectivement, qui peut déconcerter beaucoup et qui déconcerte déjà, vu les premières réactions que cet objet suscite. Alors l'objet, il est très compliqué, d'abord parce qu'Alain a voulu en faire quelque chose qui était tout à fait inattendu. C'est effectivement pas un journal, c'est pas non plus un... C'est plus un recueil d'exercices d'écriture, quelquefois journal, quelquefois ébauche d'œuvre, quelquefois réflexion personnelle, quelquefois réflexion très aigre. Il mélange tout, il écrit ce qui vient. Et puis en plus, l'objet est d'autant plus étrange, effectivement, que, je m'en excuse, on a rajouté pour en faire un vrai document sur cette espèce de vie, de survie intellectuelle d'un homme qui continue à chercher dans la maladie. On a rajouté des extraits d'almanach qui rendent compte quelquefois de manière assez sombre du délabrement physique et quelquefois intellectuel d'Alain, de ses crises, de ses syncopes, de ses crises de
mutisme.
Oui, parce que
il est touché d'abord aux jambes, il est touché au poignet,
Il est touché de partout.
Il est touché à la tête.
Son corps se met en crampe. Comme
et l'almanach est tenu par sa sœur Monique, la jumelle, la femme qui l'accompagne, qui se tient toujours à ses côtés, qu'il secoue aussi en disant « Mais vous avez été aussi important que Paul Valéry, il faut que vous continuiez à travailler. » Mais il sent bien, alors qu'il est seulement 4 ans après la retraite, que le temps des œuvres est fini.
Oui, les œuvres se seront arrêtées en 1934, hein, j'en fais un peu la liste avant, même ce qui paraît après, en fait, la plupart du temps, était écrit avant. Il ne peut plus écrire de grandes œuvres, il projette beaucoup de choses pourtant, il cherche à quoi il peut servir encore, il cherche quelle écriture est encore possible pour lui. Et puis quelquefois, il cherche simplement à former des pensées au plus près de ses humeurs, de ses émotions, et c'est un risque qu'il prend, c'est pour ça aussi qu'il demande si c'est raisonnable. Parce qu'il n'a pas l'habitude justement d'écrire au plus près de soi, il n'aime pas écrire au plus près de soi. Et là, il en prend le risque, et ce risque, effectivement, l'éditeur le partage avec lui.
Alors, il se souvient aussi du temps où il était professeur. Je sais que ça vous agace de le présenter comme un maître avec un M majuscule. C'est ainsi pourtant que le nommait sœur Monique qui l'accompagnait. Mais on apprend sous sa plume qu'il a inventé la bombe à eau. Il était chahuteur ?
Il était extrêmement chahuteur, en particulier à l'école normale supérieure. Il appelait ça des éclats métaphysiques. Et il aurait inventé la bombe à eau qui n'est pas celle qu'on connaît. Hein. C'était un tube fermé par les deux côtés.
J'ai dit que c'était une édition érudite et très scientifique.
J'ai appris à la faire avec un pliage, avec un trou à la fin. Et là, c'était une autre forme. Mais il prétend, et il a failli se faire exclure de l'école normale plusieurs fois.
Mais moi, j'imaginais la classe comme ne vivant pas dans un silence imposé.
C'est parce qu'en fait, André Mauroy, que la classe d'Alain est une classe socratique. Et donc, tout le monde en a conclu que tout le monde discutait. Alain, dialoguait avec lui-même. Il dialoguait avec lui-même. Et une anecdote veut qu'un jour, dans sa classe, un élève s'est permis de faire une remarque. Tous les élèves ont été scandalisés et Alain l'a heureusement superbement ignoré.
Témoignage d'un élève, d'un disciple, Henri Massis.
Il faut avoir vu Émile Chartier, c'était son nom, dans sa classe. Un Alain qui eût parlé tout seul. Il lui fallait le libre mouvement de son corps, de ses jambes. Et l'on ne voit pas Chartier enseignant assis. Quand nous vîmes entrer, pour la première fois, la classe, ce grand gaillard, robuste, trapu, solide, roulant les épaules, le corps bien bâti, découplé en force, quand nous entendîmes cette voix paysanne, nasillarde et joyeuse, ce fut d'abord de la stupeur. Ce lourd menton, cette bouche gloutonne qu'encadrait la moustache, ce teint vif, coloré, ces yeux bleus un peu battus, aux larges cernes, et qui regardaient en l'air, cette façon de poser les deux coudes à plat sur la chair quand il s'avisait de s'y attabler, rien dans l'attitude de ce bel animal humain évoquait les apparences maussades et renfrognées d'un professeur. Il semblait, en parlant, donner de l'exercice à sa joie, comme on en donne à ses jambes, pour aller vers les choses et découvrir l'idée dans la chose. Ce qu'il désirait nous donner, ce n'était pas des habitudes de pensée, mais des habitudes d'action.
Alors les élèves, on peut parler pour certains d'entre eux, comme Henri Massis, de disciples, allait vers l'action dans des directions différentes. Henri Massis, c'était un ami de Maurras et il est resté jusqu'au bout. Il y a dans le cercle des disciples, on le voit apparaître souvent, Jean Prévost, qui est mort héros de la résistance. Ça ne le gênait pas d'ailleurs. Du moment que les disciples partagent la ferveur, ils pouvaient aller dans des directions opposées. Ils étaient nécessairement des protestants. Si c'est des disciples, c'est des protestants.
C'est ce qu'il dit dans son journal, oui. Oui, tous ces disciples, entre guillemets, se sont opposés à lui. Peut-être sauf le couple Alexandre, Michel et Jeanne Alexandre. Mais sinon, effectivement, entre Maurice Savin, Bénézé, Mauroy, Simone Veil même, qui dans ses lettres de la fin des années 30, fustige les propos d'Alain, et qu'elle admire pourtant, qu'elle adore, et dont elle prend des nouvelles régulièrement. Et puis il faut savoir, parmi ses élèves, il y a des gens comme Marcel Déa, Massis effectivement, qui est quand même un ami de Maurras. Marcel Déa, qu'Alain regarde quand même avec beaucoup de suspicion sur son évolution dans les années 30.
Néo-socialiste qui va verser plus tard dans la collaboration.
Dans la collaboration, exactement. René Château qui sera qui aura un rôle plus compliqué, et Prévost qui effectivement à la fois sollicite Alain, le critique, le dépasse, qu'Anguilhem, hein, le grand qui se séparera entre guillemets d'Alain dans les années 30, mais qui rappellera à ceux qui lui rappellent qu'il s'est opposé à son maître, que c'est quand même lui qui lui ferme les yeux en 51. Donc voilà, admiration, opposition, c'est ce qu'Alain attend et qu'il obtient de ses disciples.
Alors il prône le doute, je vous ai promis 30 secondes d'Alain, grâce à vous, on a retrouvé en effet mal référencé ses propos enregistrés en 1948, corrigés par les machines. C'était un passionné de la technique, Alain, alors il nous saurait gré d'avoir restitué au mieux sa voix.
Le doute est considéré comme dangereux. Il faut pas douter. Moi je réponds, il faut douter. Il faut douter, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du doute. C'est-à-dire détruire cette espèce de croyance que nous avons qu'il faut détruire. Nous ne cessons pas de détruire des croyances. C'est ça la difficulté, il faut croire au doute, ça ne fait. Comme d'autres croient en Dieu.
Croire au doute comme d'autres croient en Dieu. La pensée avec un P majuscule, dirait sa disciple Simone Veil. Alors, plus clair, Fernand Ledoux, qui tient le rôle, là, d'Alain dans une émission qui a suivi sa mort, nous sommes en 1951.
Mais quand, à mon tour, j'ai été professeur, c'est ce redressement de soi par soi que j'ai toujours enseigné à mes élèves. Je leur disais, n'ayez peur de rien, faites ce que vous voulez, n'acceptez aucun esclavage, ni chaîne dorée, ni chaîne fleurie. Seulement, mes amis, soyez roi en vous-même, n'abdiquez pas. Soyez maître des désirs et de la colère aussi bien que de la peur. Exercez-vous à rappeler la colère, comme un berger rappelle son chien. Soyez roi sur vos désirs. Si vous avez peur, marchez tranquillement à ce qui vous fait peur. Si vous êtes paresseux, donnez-vous une tâche. Si vous êtes indolent, pliez-vous aux jeux athlétiques. Si vous êtes impatient, donnez-vous des pelotons de ficelle à démêler. Si le ragoût est brûlé, donnez-vous le luxe royal de le manger de bon appétit. Si la tristesse vous prend, décrétez la joie en vous-même. Si l'insomnie vous retourne comme une carpe sur l'herbe, exercez-vous à rester immobile et à dormir au commandement. Après cela, mes bons amis, puisque vous serez roi en vous, agissez royalement.
Rappelez vos facilités comme un berger rappelle son chien. Alors, allons droit au but. Si le journal est déconcertant, c'est aussi parce qu'il contient assez régulièrement, mais pas non plus de façon innombrable, des propos antisémites qui viennent à Alain spontanément. Et s'il y aura polémique autour du journal, c'est que Michel Onfray publie aux éditions de l'Observatoire un livre sur le thème Alain, l'antisémitisme, Alain et Hitler. Alors ce livre, je l'ai demandé par deux fois, les éditions de l'Observatoire qui doivent être perturbées par un débrayage social depuis hier concernant les mauvaises conditions de travail dans le groupe Humain 6, ils ne me l'ont toujours pas envoyé, je ne me suis pas inscrit dans la liste innombrable des acheteurs dans la file d'attente de Michel Onfray. Alors allez-y, Emmanuel Blondel, l'antisémitisme chez Alain, comme d'ailleurs chez son maître Jules Lagneau précédemment.
Oui, alors c'est bien que vous ayez enchaîné à cette citation qui parle du redressement de la pensée. Alain, justement, alors il faut le dire une chose très simple, effectivement, Alain, comme beaucoup, c'est pas une excuse, a en lui ce qu'il appelle un fort préjugé contre les Juifs, auquel il s'est abandonné dans sa jeunesse assez librement, 10 ans, il le cite dans le journal, dans les couloirs de l'école, criant mort aux Juifs, etc. Alors que ses meilleurs amis sont Léon Blum, Daniel, Elie Halévy, etc. Bon, cette contradiction qui est en lui, cet antisémitisme qu'il subit, qu'il n'aime pas, qu'il se reproche, dont il dit dans le journal qu'il aimerait bien en être débarrassé, qu'il étudie aussi, qu'il revient. Alors c'est vrai que Michel Onfray prend au premier degré des textes où justement Alain dit qu'il se plaint de son antisémitisme parce qu'il fausse sa vision des choses, il fausse sa lecture de Bergson, il fausse sa relation avec ses amis. Et il n'empêche qu'effectivement il en a le langage, il en a le vocabulaire et que quelquefois on ne sait pas du tout où le situer. Et puis qu'il y a des expressions vraiment très ordurières. Il y a une chose qu'il faut dire, je crois, très nettement, c'est que chez Alain, il y a un interdit de développer de tels discours en public, et puis il y a une séparation absolue entre cet antisémitisme et l'idée de s'en prendre aux personnes réelles. Il n'y a aucun soutien, quoi qu'on puisse en dire en collant des textes, à une politique antisémite, au fait de s'en prendre à des gens, soit pour les exclure des places, encore plus pour les parquer dans des camps ou les exterminer. Il n'y a aucune sympathie d'Alain là-dessus, il a toujours été parfaitement clair. Et bon, je regrette qu'il faille tordre et qu'on torde les textes à ce point pour en faire un personnage totalement étranger à ce qu'il a essayé d'être.
Et puis, le commandement sur soi de la passion subie, il faut passer à la pensée conquise.
Oui, alors tout
nettoyer
ça,
la buée de la bêtise.
Voilà, mais ça c'est effectivement ce qui va nourrir l'ambiguïté, parce qu'effectivement Alain pense qu'on ne peut former une pensée qu'en partant de sa propre bêtise. Et il prend le risque, et il le dit surtout dans le journal, c'est ça qui n'est pas raisonnable. Il indique comment certaines de ses pensées lui sont venues de sa résistance à l'antisémitisme et son effort pour rectifier des pensées. On en conclut qu'il donne un fondement légitime à l'antisémitisme, c'est tout le contraire. Il s'agit de s'en débarrasser, mais en pensant l'économie, avec ce vieux préjugé de la finance juive internationale, ou en formant l'idée du sublime, parce qu'on en parle moins, mais le juif c'est le peuple de l'esprit chez Hegel, et pour Alain ça prend une importance considérable dans l'opposition d'un esprit de sérieux à l'esprit catholique. Voilà, et on voit cet effort pour former des pensées à partir d'un préjugé, et à tout risque, et on peut dire que les réactions montrent qu'il y avait effectivement un risque.
Oui, mais le nombre d'allusions n'est quand même pas incommensurable. On trouverait un nombre d'allusions comparables dans le journal de Maurice Garçon qui a été publié à grand son trompe, et justement il y a 2 ans, et qui concerne la même période. Gide disait « Si on doit suivre sa pente, il faut la remonter ». Alors Gide, qui partageait une passion pour la musique avec Alain, il y avait un luxe dans les modestes demeures qu'habitait Alain, c'était le piano Pleyel. Alors il avait du mal à jouer, et pas seulement à cause des difficultés des poignets à la fin, parce qu'il n'avait pas appris le solfège. Il y avait une contradiction là aussi, il y a toujours une contradiction chez Alain. Il voulait jouer de la musique, il ne l'avait pas apprise.
Alors, le rapport à Alain avec la musique, il est aussi vieux qu'Alain. Hein. Il a appris à composer de la musique en composant des marches funèbres pour le lycée d'Alençon. Il a joué du violon, il a improvisé au piano, un merveilleux improvisateur. Il a regretté effectivement de ne pas en venir au solfège pour une raison très simple, c'est que s'il avait appris le solfège, il aurait été compositeur. Mais sinon, on peut dire que quand même, il a une vocation rentrée et malheureuse. Son talent d'improvisateur lui permettait quand même d'improviser des basses pendant qu'Yvonne Lefébure venait jouer le dessus, ce qui est quand même pas à la portée de n'importe qui. Et surtout, l'intérêt d'Yvonne Lefébure pour Alain montre qu'il y avait quand même un talent musical immense dont nous n'avons absolument gardé aucune trace. Et c'est fort dommage, un talent d'improvisateur. Je rappelle qu'il avait publié en 1918 un petit traité d'harmonie qui est une méthode de l'improvisation par l'harmonie au piano.
Au moins Yvonne Lefébure, qu'on va entendre dans la sonate opus 110 de Beethoven, elle ne me prend pas pour un ignorant. On peut faire de la philo sans avoir lu une ligne de Platon, ou du moins entendre une leçon de philo. On peut entendre Yvonne Lefébure sans crainte.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Emmanuel Blondel qui publie une édition intégrale du journal qu'a tenu le philosophe Alain entre 1937 et 1950, c'est aux éditions des Équateurs. C'est un maître déconcertant, ne cessez-vous de dire. On le présente toujours comme un pacifiste absolu. Il s'est engagé dans la guerre de 14, il se serait engagé s'il n'avait pas été sur un fauteuil roulant dans la guerre de 39, dit-il. Et alors il est passionné par l'art militaire, il aurait pu écrire un livre là-dessus. Il lit l'Iliade de très près, il est passionné par l'épopée napoléonienne, la guerre de 70...
Bien sûr, c'est son enfance. Oui, d'abord Alain, effectivement, il y a un énorme malentendu autour d'Alain. D'abord, Alain est quelqu'un qui cherche et pas un maître, justement, qui énonce. Il n'a jamais été un pacifiste intégral. Il y a eu des pacifistes intégraux parmi ses disciples et ses amis, et en particulier les gens qui collaboraient au libre propos. Mais lui a toujours tenu pour la constitution d'une armée défensive. Il est contre l'agression militaire, mais il n'est pas du tout contre la constitution d'une armée et la défense légitime. Et puis après, dans cette méditation sur la guerre, ce qui est étonnant aussi, on dit souvent qu'Alain est resté prisonnier justement du souvenir de la guerre de 70. C'est vrai qu'il connaît par cœur les actes du procès Bazaine, qui est quand même pas une lecture qui est favorite de tout le monde, qui relate donc la guerre de 70. Voilà. Mais il pense aussi évidemment son expérience de la guerre de 14. Il pense la nouveauté inhérente à chaque guerre. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en fait un passéiste, alors qu'il s'efforce de penser au contact de chaque guerre, ce qui se passe de nouveau dans cette guerre. Il dit que toute guerre est imprévisible, et il est effectivement aussi passionné au début de la guerre par ce qui se passe, par les premières opérations, les opérations en Finlande, etc.
Alors là, on va en arriver assez vite à la guerre de 39, mais les conséquences de la guerre de 14, déjà, il a observé le début de la guerre aérienne. Il parlera plus tard du risque de terreur aérienne. Il imaginera des avions sans pilote, presque les drones.
Oui, il les imagine. Alors, il dira aussi qu'on peut tout imaginer et que ce qui arrivera ne correspond jamais à ce qu'on imagine. Il parle aussi des saucisses de Schlumberger. Il voit les premiers ballons, les premiers...
Mais c'est tout des locomotives, tout aussi bien. La technique le passionne.
Ah, la technique le passionne. Oui, ça, les locomotives, c'est un passionné. Autant il déteste le train, il trouve qu'à 30 km vraiment on prend des risques sanitaires considérables et puis que c'est un luxe inutile, autant il est passionné effectivement par le développement technique.
Et le char ?
Le char, il l'a assez peu connu et il en parle assez peu. Il y fait peu confiance. On pourrait dire que c'est une erreur stratégique ou tactique.
Oui, mais enfin, mais il croit assez peu. Il le voit quand même quand il observe la guerre de 39-40 pendant l'hiver en Finlande. Il observe qui a permis, dans un premier temps, aux Soviétiques de balayer les Finlandais. Alors la guerre de Finlande, ça le passionne.
L'utilisation massive de blindés a eu tout d'abord un effet dévastateur. Parce que les Finlandais n'avaient encore jamais eu à se battre contre des chars à l'entraînement. Le cocktail Molotov est certainement l'arme du pauvre la plus célèbre du XXe siècle. Il doit son nom au ministre des Affaires étrangères de Staline. Si on arrivait à se mettre derrière un char et à jeter une bouteille d'essence enflammée dans les conduits de ventilation, l'essence était aspirée dans le moteur, le carburant du véhicule explosait, et pour le prix de 2 litres d'essence, on pouvait détruire un char adverse.
Notre deuxième arme, c'était la grenade anti-char. Mais il fallait s'approcher encore plus près du blindé, parce qu'elle était très lourde et on ne pouvait pas la lancer à plus de 10-15 mètres. C'était une tactique défensive folle. Mais la troisième méthode de combat anti-char nécessitait encore plus de courage. Elle était encore plus insensée. Il fallait coincer une bûche dans les chenilles du char.
Voilà, et même avec une pince, on peut s'approcher d'un char, on peut s'appuyer sur un autre homme qui fait levier et l'emporter sur le char. C'est le retour de la civilisation par l'homme, qui peut avoir un rôle de franc-tireur, alors ?
Alain est fasciné par les deux, c'est-à-dire ce déferlement de forces mécaniques toujours grandissantes, qui fera quand même la victoire de l'Allemagne, écrasant, balayant la résistance, les motards aussi qui foncent, mais aussi les blindés. Et puis il est fasciné effectivement par cette capacité de résistance, et qui fait qu'il est en train de dire aussi qu'il n'est pas évident que la force décuplée, la masse mécanique, l'emportera nécessairement. À mon avis, il entrevoit effectivement qu'une armée tout à fait sophistiquée et hyper puissante peut être mise en difficulté, voire pas en déroute, mais échouée dans la conquête d'un territoire où effectivement les partisans se battent pour leur survie politique, pour leur survie tout court, et se comportent en franc-tireurs et peuvent mettre en échec effectivement les plus grandes puissances.
Le skieur finlandais pourrait l'emporter sur la masse soviétique, de même que les francs-tireurs soviétiques, quand les Allemands ont envahi l'Union soviétique, ont beaucoup gêné les troupes de Hitler. Oui, mais l'évidence, c'est quand même que la civilisation est dominée de plus en plus par la puisance de la force seule. Et puisqu'on parle de Hitler, il faut en venir aux pages étonnantes où Alain lit, aussitôt après la débâcle,
Mein Kampf, alors la plume à la main, hein, ligne à ligne, et sans donner l'impression de formuler de jugement.
Et quand Alain lit un auteur, il ne le juge jamais. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, et là aussi on voit des commentateurs qui reproduisent des lignes d'Alain en disant « il approuve Hitler ». Non, il le paraphrase comme il fait d'habitude quand il lit, il raconte. Donc quand il expose Hitler, il expose Hitler. Et puis après, il réfléchit. Ce qui est fascinant, c'est que effectivement, dans cette victoire d'Hitler, il n'y a pas que la victoire d'Hitler. Il est frappé par la victoire de la violence, de la force pure dans cette guerre. Et il ne la pense pas seulement au niveau de la guerre. Il pense d'ailleurs, il constate que l'armée américaine vaincra Hitler par les mêmes moyens de force pure que Hitler. Simplement, l'armée américaine est plus puissante que l'armée allemande. Et le problème, c'est que cette logique de pure violence lui semble dominer maintenant l'avenir de la politique elle-même. Et c'est ça aussi qu'il lit dans Mein Kampf. C'est pas pour l'approuver, pour dire, voilà, nous allons avoir affaire à une civilisation où la violence pure s'impose, où la force pure s'impose, et où finalement les compromis qu'on arrivait à trouver avec la Troisième République, la vigilance du citoyen, etc., n'ont peut-être plus autant de sens parce qu'au fond, les pouvoirs deviennent de plus en plus indifférents aux citoyens.
Mais Audrey Ripouille, notre réalisatrice, me rappelait son sujet de Bach. Alain s'est pensé contre. Et le même Alain, dans le journal, en 40-41, alors il faut voir aussi qu'il est très 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 malade, qu'il souffre beaucoup, écrit « Nous sommes vaincus à ne pouvoir imaginer une revanche ».
Oui, là c'est vraiment son... Bon là, il faut voir qu'il y a effectivement dans le journal des moments d'effondrement et pas seulement physique. Pour lui, il faut mesurer ce que c'est son combat pacifiste d'un demi-siècle, première défaite, si l'on veut, en 14, qu'il a médité, à partir de laquelle il a réorchestré toute son écriture pour essayer de faire de l'écriture, de la prose, un véritable combat pour la paix. Et tout s'effondre à nouveau en 1940. Et là, effectivement, il y a certaines pages de renoncement absolu. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas les textes entre fin 41, 42, début 43.
Là, il n'est plus en état d'écrire.
On ne sait pas. En tout cas, effectivement, on n'a pas perdu de cahier. Il fait peut-être autre chose. Il est peut-être absolument plus en état d'écrire. Mais il y a effectivement là un pessimisme, un désespoir total qui l'envahit à certains moments, avant la résurrection des années 43-45.
Alors la résurrection, c'est quand même étonnant, un peu de biographie. Le jumeau, sœur Monique, qui l'a accompagnée tout le temps, elle meurt. Et bien vous dites, ça va plutôt mieux après, parce que ça lui donne un coup de fouet.
Oui, mais c'est le problème du sublime. D'ailleurs, on parlait du sublime juif tout à l'heure. Celle qui incarne le sublime, paradoxalement, c'est bien sœur Monique, qui est alors une catholique. Il n'y a pas plus catholique. Et ce sublime fatigue Alain. On a des tas de témoignages de Paulhan, par exemple, qui vient voir Alain dans sa maison et qui entend Alain, qui corrige des épreuves, des éléments de philosophie, râler en disant « qu'est-ce que c'est ennuyeux la philosophie ?» Il y a un devoir d'écrire qu'incarne sœur Monique, justement, qui étouffe Alain. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle est partie, l'écriture redevient un acte de liberté, un acte de sérieux, mais de sérieux dans la liberté.
Surtout que revient auprès du fauteuil roulant la femme tant aimée.
Un peu après.
Qui s'appelle Gabriel et qui sera l'ange des dernières années. Ça va mieux, donc après, moi je voudrais évoquer un bloc d'une dizaine de pages parmi les dernières, Simone Veil. L'a vu le plus possible. La dernière lettre de Simone Veil, c'est 41. Simone Pétremont, la grande amie de Simone Veil, vient régulièrement voir le maître Alain. Et il est très passionné par la réflexion politique de Simone Veil, qu'il considère comme très supérieure à tous les autres disciples qu'il a pu avoir. Et notamment la réflexion sur le fonctionnement de la politique dans les nouvelles circonstances d'après la guerre.
Oui, là vous faites référence au célèbre article sur les partis politiques de Simone Veil. Alain a toujours suivi de très près les activités de Simone Veil. Il n'a pas très bien compris sa retraite, c'est-à-dire son retrait de l'activité syndicale, révolutionnaire, si on peut dire, à la fin quand elle est entrée en usine. Mais il lui a toujours fait une confiance éperdue. Et effectivement, les deux thèmes, si on peut dire, de l'abolition des partis politiques et de l'enracinement le touchent au plus près, lui qui parle de structure paysanne et qui essaye de repenser ce que peut être un paysage politique dans cette perspective où la force pure l'aurait emporté et aurait en quelque sorte dévitalisé le débat politique.
Il n'y a pas d'autre parti que celui de la justice et de la vérité, mais les partis traditionnels qui s'accordent à dire qu'ils poursuivent la justice et la vérité n'y pensent jamais, attendu qu'une collectivité ne peut rien penser, restent les individus soutenus
par leurs amis. Le journal 1937-1950 d'Alain aux éditions des Équateurs. J'ai déjà cité notre réalisatrice, Michel Bézikian à la technique, Franck Olivard pour la préparation.